Memphis. Wadek ramai welish. Yel Memphis. Gulolo mi metep kish. Yel Memphis. Wadek ramai welish.
Yel Memphis.
Quand on a demandé l'asile.
Sans papier.
On m'a dit c'est pas facile.
Passeur d'info.
Tu vas attendre 2 ans.
Sans papier.
Et tu reçois refusé.
Sans papier.
Passeur d'info est une plateforme d'information et d'actualité sur la question des migrants réfugiés et des personnes et organisations qui les accueillent et les soutiennent. De l'Europe entière, des correspondants nous donnent les détails de leurs actions.
L'occupation
sans papier.
C'est la souris les yeux.
Sans papier.
Tu vas sortir, c'est pas la peine.
Sans papier.
Sinon les gaz à
crime. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Johannes qui est à la technique et qui m'accompagne aujourd'hui. Je suis seule. Voilà, Marie-Pascale au micro. Donc, pour vous présenter cette nouvelle émission de Passeurs d'infos, la 164e de la série, et toujours autant de choses à dire, autant d'actualités pas réjouissantes, il faut le dire d'ailleurs. Et on va commencer avec l'Algérie. Aujourd'hui, on va principalement parler de l'Afrique du Nord et l'Algérie, où se développent en ce moment de véritables chasses aux migrants, des chasses aux humains qui ont la peau noire. Une modique somme de 2000 dinars, c'est environ 15 euros, qui récompense la prise d'une personne de couleur noire. Vous avez bien entendu, et on doute fort que ce soit une idée originale des Algériens, comme ça. Ils se sont dit, tiens, si on donnait un peu d'argent à nos concitoyens pour qu'ils chassent des personnes noires, et comme ça, ainsi, on les regroupe et qu'on les envoie dans le désert. Non, non, on a bien tendance à y entrevoir une responsabilité des politiques européennes, d'externalisation de ces frontières et des nombreux accords bilatéraux qui se sont passés, des accords bilatéraux qui sont crapuleux entre des pays type Italie-Libye. Alors Libye, on ne sait pas trop avec quel gouvernement ou avec quelle faction, mais en tout cas, ils ont réussi à nous servir des accords qui auraient été pris avec des gens avec qui on pourrait signer des accords, des gens honnêtes qui travailleraient pour le bien des migrants, des personnes elles-mêmes, parce que c'est toujours l'argument qui est avancé, on les protège contre les mafias, les passeurs, etc. Alors il n'y a pas que la Libye et l'Italie, il y a aussi l'Espagne et le Maroc, où il y a des accords bilatéraux. C'est en train de se ressentir au Maroc en ce moment, où il y a toujours des rafles qui sont pratiquées à Tanger, sur toute la partie nord du Maroc, sur les bords de la Méditerranée. Et on emmène les gens vers le sud, là au Maroc on les lâche plutôt dans des villes. On pense donc peut-être bien qu'il y aurait eu des accords entre la France et l'Algérie, mais je peux pas le confirmer. J'en suis pas sûre, on va faire quelques petites enquêtes pour le savoir. Les choses sont trop sales, on les fait faire par les autres, c'est plus facile, ça c'est la politique européenne. Et si un jour accusation il y aura, ça sera les autres qui ont fait ce genre d'horreur, et c'est pas nous. Donc des hommes par dizaines de milliers sont pillés, sont déportés, jetés dans le désert au sud de l'Algérie. Et ceux qui peuvent y survivent quand ils en ont la force. Et puis il y a l'OIM qui arrive et qui récupère celles et ceux qui sont restés debout. Ils les internent dans un camp à Arlit. Arlit, c'est la ville mortifère sortie de terre par Areva, qui entasse des ouvriers bon marché pour y extraire de l'uranium. Et c'est pour qui l'uranium ? Eh bien, pour faire marcher nos centrales nucléaires, celles qui nous permettent un peu... beaucoup de vivre, on va dire, le cul dans le beurre peut-être, et ce qui provoque une certaine envie par les trois quarts de cette planète. Décidément, ce monde est complètement fou. Je vous invite donc à aller voir la vidéo sur YouTube. Ça s'appelle « On nous a abandonnés dans le désert » sur le sujet, parce qu'il y a des témoignages des personnes qui ont subi cette déportation, cette répression, et qui explique ce qui leur est arrivé, du type « je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner parce que j'avais très mal à la tête, donc en Algérie, et là une personne a téléphoné à la police et a gagné donc ces fameux 2000 dinars, c'est 15 euros. Et moi, je me suis retrouvée enfermée et je me suis retrouvée au milieu du désert avec quelques centaines d'autres personnes. Il faut regarder les images, c'est très impressionnant. C'est pas trois personnes qui marchent dans le désert, c'est des centaines de personnes qui marchent dans le désert. Je vous mets le lien de cette vidéo dans le descriptif de cette émission, qui est donc, je le rappelle, la 164e de Passeurs d'Infos sur le site de Radio Zinzine. Je vous appelle à faire tourner un maximum dans tous vos réseaux sociaux et autres supports d'informations, parce que c'est un véritable scandale. Et c'est pas seulement celui de l'Algérie, c'est pas une accusation seulement pour l'Algérie seule, mais c'est bien un scandale qui nous appartient. Combien de temps et surtout jusqu'à où nous allons fermer les yeux sur des actes aussi barbares et dignes vraiment des périodes les plus sombres de notre histoire. Alors aujourd'hui, il y a quelques annonces qui sont quasi les mêmes que celles qu'on vous a données la semaine dernière. On n'en a pas eu beaucoup plus. Les occupants du squat d'accueil de Saint-Just à Marseille lancent un appel à soutien. Ils sont beaucoup trop peu nombreuses pour soutenir les quelques 150 mineurs, enfants et femmes enceintes qui y habitent pour le moment. Ils ont besoin de monde, ils ont besoin de soutien, donc même une nuit, une journée, par-ci, par-là, pour un petit relais. Donc si vous voulez vous mêler de cette histoire-là, vous pouvez donc appeler, je recherche immédiatement tout de suite le numéro de téléphone parce que j'ai fait une petite erreur. Et donc vous pouvez appeler au 07 53 42 32 75, 07 53 42 32 75, voir un peu avec eux comment ça se passe là-bas, leur rendre visite et leur donner un petit coup de main. C'est donc ça pour les occupants et les occupantes du squat de Saint-Just à Marseille. Vous pouvez retrouver ce numéro bien sûr sur le descriptif de l'émission. Du 7 au 12 janvier, donc c'est jusqu'à samedi, Alex Casacantoniera à Oulx. Une semaine de travaux collectifs vous ont été proposés et vous sont proposés donc jusqu'au 12. C'est le nouveau refuge autogéré à la frontière franco-italienne qui s'est ouvert le 9 décembre dernier. Et c'est une maison pour celles et ceux qui n'acceptent pas et qui luttent contre le dispositif de contrôle et de sélection à la frontière. Il faut y bricoler, peindre, isoler, souder, etc. Plus d'informations pour ce petit chantier sur www.passamontagna.info et pour écrire, vous avez un mail info@passamontagna.info. Voilà un mail sur lequel vous pouvez écrire pour en avoir des infos. Donc ça, c'est pour le nouveau squat qui s'est ouvert à la frontière franco-italienne, qui est un tout petit peu plus loin de la frontière que l'été, le squat de chez Jésus, voilà, à côté de Montgenèvre. Mais je pense qu'il a autant d'importance en cet hiver assez froid. Pour finir, on vous rappelle qu'il y a un concert, qui est un concert du rappeur activiste Martial Panucci du Congo Brazzaville. Ça va être le 15 janvier, c'est mardi à Fort-Calquier, dans les Cavalulu, rue d'Orléans. Le concert sera précédé d'une projection et d'une discussion sur la situation de ce pays. Donc pour ceux qui sont pas forcément des amateurs de musique rap, bien que ça soit des textes engagés, vous pouvez venez à la projection et à la discussion sur la situation de ce pays. Ça fait partie, je le disais déjà la semaine dernière, des informations qu'on essaye de vous transmettre, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens partent en migration, parce que comme vous le savez certainement, personne n'est vraiment heureux de partir de chez lui ou de chez elle pour vivre ce que tous ces gens-là vivent sur la route et pour s'installer dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Donc tout ça, ça sera à prix libre et il y aura un bar et une restauration sur place. Martial Panucci, donc un concert à Fort-Calquier le 15 janvier prochain dans les caves à Lulu. Il y a des horaires qui nous manquent là. Je ne vous ai pas donné d'horaire et je ne les ai pas notés non plus. Donc je vais tout de suite aller vérifier ça parce que j'ai la chance d'avoir internet. Et c'est donc à partir de 18h. Voilà, 18h, projection du documentaire, plus discussion donc sur le contexte de lutte au Congo-Brazzaville. Après, on mange un petit peu, on discute, et après, il y a le concert. Voilà, donc rendez-vous mardi soir, on va s'y retrouver, je pense. On écoute un peu de musique. J'ai oublié de vous le dire en début d'émission, mais ce matin se tenait à Gap un procès encore contre qui sont sur la frontière. Paf, tout d'un coup, j'ai les maraudeurs. Voilà, contre deux maraudeurs solidaires qui se sont fait arrêter à la frontière de Montgenèvre. Et du coup, on n'a pas eu d'informations sur ce qui s'est passé ce matin au procès. Et donc, si quelqu'un est à l'écoute, au cas où quelqu'un est à l'écoute, est allé à ce procès et veut nous donner quelques informations, et ben ça va être possible vers la fin de l'émission, mais qu'il essaye ou qu'elle essaye de nous téléphoner maintenant pour qu'on se le dise et qu'on essaye de donner quelques infos sur ce qui s'est passé à Gap. Sinon, ben, ça sera la semaine prochaine que vous aurez des informations là-dessus. On va continuer cette émission avec un entretien qui est assez long, mais qui est extrêmement intéressant. Restez à l'écoute parce que c'est vraiment quelqu'un d'absolument exceptionnel qu'on a eu la chance de rencontrer. Il s'appelle Anaclet Kalonji, c'est un Congolais de Kinshasa. Il est allé étudier la médecine au Maroc début des années 2000 et il s'est retrouvé entraîné par Emmanuel Mbolela, dont on vous a beaucoup parlé dans cette émission. Et donc il s'est trouvé entraîné par lui et ses compagnons d'infortune dans la difficile mission d'ouvrir les portes de l'hôpital où il travaillait à celles et ceux qui en avaient besoin et qui pouvaient donc ainsi bénéficier d'un minimum de soins. Il a fait un travail énorme de conscientisation et d'organisation des personnes en situation de migration à cette époque-là, c'était 2004-2005. Et il a fait un très très gros travail donc pour que chacun prenne conscience de l'importance de s'organiser ensemble et de se soutenir pour se protéger au niveau sanitaire bien sûr, mais pas que. Comme il le sous-entend, il est tombé dans la marmite, il le dit dans son entretien, il est tombé dans la marmite de la solidarité et ne s'est réveillé que 6 ans après, ce qui lui a posé de gros gros problèmes familiaux. Mais c'est la partie que j'ai coupée de l'émission, enfin de l'entretien que j'ai fait avec lui, qu'on passera peut-être à une autre occasion. Et voilà, parce que j'ai trouvé que c'était dans le temps qu'on avait... plus adapté de parler du travail de l'organisation sanitaire qu'il a fait auprès des migrants. Il était là parce qu'il avait été invité à la conférence La parole aux migrants qui a eu lieu le 1er et 2 décembre dernier à Rabat au Maroc et dont on a déjà parlé dans cette émission, dans des émissions précédentes. Et d'ailleurs on va en reparler parce qu'on avait rencontré d'autres gens à ce moment-là qui étaient vraiment passionnants. Il nous rappelle qu'à l'époque le Maroc pratiquait aussi le type de déportation dont je vous ai parlé au début de l'émission, qui se pratique aujourd'hui en Algérie, des rafles, des violences, du pillage et des abandons donc de personnes dans le désert ou à la frontière algéro-marocaine. Anaclet est aujourd'hui médecin au Gabon, Nous allons nous remettre en contact avec lui certainement pour le consulter un de ces jours sur les derniers résultats des élections qui ont eu lieu au Congo-Kinshasa et dont le résultat provisoire a été donné ce matin. Donc ça serait c'est le fils de Tshisekedi. Donc Félix était le dirigeant historique, non ? Alors je ne sais plus si c'est Félix et Étienne, peu importe. En tout cas, c'est le fils du dirigeant historique de l'UDPS, qui est donc le parti en opposition à Kabila, le parti d'opposition au Congo, qui n'a jamais pu avoir accès au pouvoir, parce que, bien sûr, Kabila n'a pas organisé d'élection comme ses prédécesseurs. D'ailleurs, depuis Mobutu, donc ça fait 34 ans, en fait, qu'il n'y a pas eu un président élu en République démocratique du Congo. C'est rigolo d'ailleurs, hein, parce que ça s'appelle la République démocratique du Congo. Mais apparemment, ces élections-là, elles n'ont pas l'air beaucoup plus claires que les autres, d'après ce que j'ai compris. Félix, voilà, merci pour l'information, Johannes. Donc c'est Félix Tshisekedi. Et donc c'est lui qui aurait gagné les élections, mais il se trouve que c'est déjà très, très contesté par les autres candidats. Bon, on en reparlera, je vous propose certainement la semaine prochaine sur Radio Zinzine ou dans les prochains jours. Et là, pour le moment, on va parler avec Anna Clé sur ses engagements au Maroc, le travail qu'il y a fait auprès des migrants. Je vous laisse en son excellente compagnie pour un petit moment. À tout à l'heure. Professeur, docteur Anna Clé Kalondji.
Oui, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je profite de votre passage à Rabat pour cette conférence du 1er et 2 décembre qui a eu lieu, donc qui s'appelait La parole aux migrants, qui a été organisée par l'ARCOM pour vous faire parler, pour vous interroger sur votre parcours. Donc vous étiez vous-même à Rabat pendant un temps, mais vous n'avez pas vécu la migration comme ceux qui sont partis de chez eux sur la route. Vous êtes venu différemment. Comment vous êtes arrivé sur Rabat au début ?
Bon, moi je suis arrivé à Rabat le 6 janvier 2004 dans le cadre d'une mission de recherche en vue d'une thèse de doctorat de troisième cycle.
Vous arrivez d'où ?
Je viens de Congo-Kinshasa. Oui. Alors, une fois arrivé à Rabat, j'étais déjà médecin radiologue, mais pendant mon cursus, je n'avais pas eu accès à certains outils de base de radiologie comme le scanner. Je n'avais pas appris le Doppler, l'IRM. Mais arrivé à Rabat, j'ai découvert les services avec ces plateaux techniques. C'est ainsi que j'ai eu l'idée d'approcher les services académiques de l'université Mohamed V Sissi pour solliciter une réinscription au programme de spécialisation, donc reprendre ma spécialisation à zéro. J'avais obtenu cette inscription-là et je devrais faire mon programme de recherche de troisième cycle et suivre le cursus de radiologue pendant 4 ans. Donc j'étais suffisamment occupé par ce programme de formation. Oui.
D'accord. Et donc là, sur Rabat, vous avez rencontré cette problématique migratoire. C'est ici, à ce moment-là ?
Oui, c'est à Rabat où j'ai rencontré les migrants parce que j'étais logé à la Cité universitaire internationale qui est située dans le quartier Hayriyad. Mais Hayriyad est à côté de J5 où les migrants, c'est un quartier populaire où les migrants étaient regroupés. En faisant mes courses, je rencontrais beaucoup de migrants, mais ça ne m'intéressait pas parce que j'avais mon objectif. Ma rencontre avec le migrant, ça a été un accident. Un jour, j'étais à l'hôpital de spécialité où je faisais mon stage en neuroradiologie. Et un après-midi, j'ai vu 3 personnes, dont un sérieusement malade, avec un état général suffisamment altéré, et 2 autres qui l'accompagnaient. Et quand ils m'ont vu, comme je suis subsaharien comme eux, et ils se sont dirigés vers moi pour me poser leurs problèmes et ils voulaient faire admettre le malade à l'hôpital. La chose n'était pas facile parce que le subsaharien, le malade n'avait pas de pièces pouvant justifier un séjour légal au Maroc et les deux accompagnants aussi. Donc c'était très compliqué, personne ne pouvait se mettre garant de ce qui allait se passer. Et moi, je me suis dirigé, je n'étais pas aux urgences, je faisais la garde de radiologie, il fallait que le malade soit reçu, qu'on ait établi l'utilité d'une radiographie pour qu'il vienne chez moi. Je suis allé voir mes collègues qui étaient à l'accueil, pour plaider, pour voir s'ils pouvaient l'admettre dans son état. Les collègues ne pouvaient pas déroger aux instructions de l'administration. Il fallait commencer par le bureau d'accueil et présenter ses pièces d'identité. C'était difficile. J'ai essayé de plaider pendant plusieurs minutes. Les amis ne pouvaient pas faire autrement que respecter les instructions. Et pour se débarrasser de moi, ils m'ont dit « Allez voir le surveillant général et s'il peut simuler votre cas au cas de Marocains qu'on ramasse sur la route sans pièce d'identité avec eux et que nous, à l'hôpital, on appelait communément X Ben X, ça veut dire inconnu, fils d'inconnu. » Alors, pour moi, c'était une façon de déplacer le problème, mais avec foi, parce que l'état de ce monsieur nécessitait vraiment une prise en charge. J'ai dit, on tente le tout. Et je suis allé voir le surveillant général avec les deux autres accompagnants. On lui a posé le problème. À notre grande surprise, il a accédé à notre demande. Et le malade a été admis à l'hôpital. Il a bénéficié des soins gratuitement. Et comme je l'avais dit aux dernières nouvelles, on l'a repéré en France, il est en bonne santé, c'est une très bonne chose.
Mais ça c'était en quelle année alors?
Ça c'était en 2004, je venais d'arriver.
D'accord.
Oui, et avec le temps, j'ai fini par connaître les deux accompagnants migrants qui accompagnaient le malade, parce que ensemble, on rendait visite au même malade. Et l'un d'eux, c'est Emmanuel Bolela, qui a dû par après. Et Emmanuel, il a gardé le contact avec moi. Un jour, en 2005, il revient me voir. À ce moment-là, je n'étais plus à l'hôpital de spécialité, j'étais à l'hôpital d'enfants où je faisais le stage de radiopédiatrie. Et de là, Emmanuel me dira, « Bon, docteur, j'ai l'idée de monter une association pour aider les migrants, les soulager et tout. Et j'ai pensé à vous pour faire partie de mon association, qu'on commence à aider les migrants. » Moi, je lui ai dit, « Niet, je n'ai pas le temps à consacrer aux migrants. Je suis très occupé par mes programmes de formation et je n'ai pas le temps pour ça. » Emmanuel insiste, il me fait voir, il me décrit ce qu'ils vivent dans le quartier, que c'est vraiment, on ne peut pas rester indifférent, il explique. Moi je lui dis non, je ne peux pas. Et puis tu oublies Emmanuel que tu m'as dit que tu as eu des problèmes dans ton pays à cause de tes opinions. Et tu as été persécuté, c'est ainsi que tu es venu te mettre à l'abri au Maroc. Et maintenant, tu n'as pas de papier et tu veux faire des associations, tu vas t'exposer aux autorités marocaines, on va t'expulser, tu vas te retrouver dans la même situation. Donc c'est un risque, arrête cette idée-là. Emmanuel, fort de l'expérience qu'il vivait au quartier, il ne pouvait pas voir son problème à lui et il a continué à insister. Bon, je lui ai dit, bon, écoutez Emmanuel, on coupe court. Si tu as besoin de mes conseils, je suis là. Mais figurez sur la liste de ton association, pas question. Donc Emmanuel, en bon négociateur, il est parti. Nous sommes séparés sur ce point-là. Et on a gardé les contacts. Pour moi, l'affaire est terminée. Je me suis débarrassé d'Emmanuel. C'est terminé. Et un dimanche, à la sortie de l'église, Père Pio, à l'époque, il était curé de la paroisse Saint-Pédis à Agdal, à Rabat. Après l'église, il me dit, docteur, est-ce qu'il n'est pas possible que vous vous intéressiez au dossier d'une choriste qui était étudiante ici et sa famille n'a pas eu l'argent, on ne lui a pas envoyé l'argent des billets pour rentrer au pays, son ambassade non plus, elle est devenue clandestine et puis se cache à la cité universitaire internationale et de là, un jour, elle voulait rentrer, les gardiens de la cité universitaire l'ont repéré. Elle a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es plus étudiante. Et elle a couru, elle est allée se cacher dans la chambre où elle était sous-logée par ses copines. Et les gardiens l'ont poursuivie jusqu'à la porte. Ils l'ont dit, ouvre, si tu n'ouvres pas la porte, on appelle la police et la police viendra te chercher ici. Pour un migrant, dire qu'on appelle la police à l'époque, c'était comme si tu l'as déjà tué. Et la fille, elle a dit non. Donc, au lieu de se laisser interpeller par la police, il faut que je me sauve. Donc, si j'ouvre la porte, les gardiens vont me prendre, ils vont me livrer à la police. Donc, il faut ouvrir la fenêtre et sauter au premier étage. Elle a sauté et elle a eu une fracture au niveau du fémur. Bon, elle était suivie par l'équipe de Caritas, de bénévoles, qui l'avait accompagné à l'hôpital. On avait mis le plâtre, mais ça n'évoluait pas. Et pour connaître ce dossier, je suis allé à Caritas. J'arrive, j'ai rencontré une très bonne équipe de bénévoles très engagés pour la cause des migrants. Pour la plupart, c'était des femmes, des diplomates. Pendant les heures libres, ils venaient, ils apportaient les pullovers, les habits chauds, ils faisaient les écoutes pour un peu soulager les migrants. Et puis il y avait un volet médical où ils récoltaient les médicaments et ils distribuaient les médicaments aux réfugiés, aux migrants qui en avaient besoin. Mais pour cette activité spécifique du volet médical, elles étaient encadrées par une infirmière à la retraite, qui avait beaucoup de talent, et aussi une vétérinaire. C'est quand j'ai découvert qu'il y avait une vétérinaire qui s'occupait des migrants, j'ai dit, mais si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que vraiment, elle n'a pas appris à soigner les hommes, mais si elle le fait, ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a une nécessité. Et moi, j'ai appris à soigner les hommes, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est alors que ça fait un déclic chez moi. Je leur ai dit, comment vous vous organisez? Ils ont dit, non, nous venons deux fois par semaine, le mardi après-midi. C'est pour les Marocains économiquement faibles. Ça prend à peu près 2 heures du temps de permanence. Et le vendredi après-midi pour les migrants. On m'a dit, ok, je peux retirer 4 heures par semaine dans mon emploi du temps. Ça ne serait pas la fin du monde. Et je commençais à participer aux activités de Caritas, aux permanences médicales pour conseiller. Et là, je rencontre une autre surprise. Il n'y avait que des Congolais qui venaient. Je me dis, mais ce n'est pas normal. Quand je vais à G5, il y a plusieurs communautés qui sont aussi dans le besoin que les Congolais. Pourquoi il n'y a que les Congolais qui viennent? Là, il y a un problème. Et je me dis, je dois savoir pourquoi ils ne viennent pas. Ils souffrent en silence, comme je le disais. Les migrants, ils vivent clandestinement, ils souffrent clandestinement, ils mouraient aussi clandestinement. Personne ne savait ce qui s'est passé derrière les rideaux. Alors, je me suis dit, je devrais étudier pourquoi les autres ne venaient pas. Et c'est alors que je me suis dit que pour comprendre, je dois bien maîtriser la problématique et je devrais faire une cartographie sociale des migrants. Je les avais repérés à G5, comment ils fonctionnent, quels sont leurs problèmes. Et pour faire cette cartographie, moi-même, je n'étais pas migrant, je ne savais pas comment ils fonctionnaient. Alors j'avais besoin d'un fil conducteur. Il fallait trouver un migrant qui devrait m'introduire dans leur milieu. Bon, un après-midi, ça devait être un week-end, je suis allé à G5, je me suis mis dans la rue, j'ai vu un migrant venir, je l'ai interpellé. Et il s'appelait, en fait, on l'appelait maître, il devait être un sportif et tout ça. Et je lui parlais comment il vivait, je lui ai dit ce que j'ai vu, je lui ai dit ouvertement, je suis médecin, je suis à la Caritas, malheureusement c'est un Congolais lui aussi, il sortait, il dit bon, je ne vois que les Congolais qui viennent, moi je suis Congolais, mais il n'y a pas que des Congolais qui doivent bénéficier de l'assistance de Caritas. Mmh. Je vois les autres ici, pourquoi ils ne viennent pas? Alors qu'il a commencé à m'expliquer, non, voilà... Nous, les Congolais, nous nous organisons comme ça. Voilà, c'est à cause de tel. Bon, je n'ai pas vraiment intérêt à divulguer les choses qu'il m'avait dit. Voilà comment nous nous organisons. C'est pour cette raison que nous sortons. Les autres, voilà comment ils s'organisent. Voilà, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, que ce que nous nous utilisons. Alors.
C'est parce que, en fait, ça fonctionnait vraiment sur un réseau de gens qui s'entreprotégeaient, donc oui. Ça leur permettait effectivement d'accéder plus facilement à des aides, des soins, etc.
Tout à fait. Les Congolais avaient leur organisation leur permettait de sortir, parfois de braver la police, parce qu'ils savaient comment ils se protégeaient. Les autres, ils avaient une autre organisation. D'autres organisations différentes de l'organisation des Congolais. Alors j'ai compris que c'était un système très structuré. Alors j'ai commencé à aller petit à petit pour entrer dans cette structure, communauté par communauté. Qui commande telle communauté? Comment ils fonctionnent? Quels sont leurs problèmes? Quelles sont leurs inquiétudes? Quelles sont les solutions que eux-mêmes proposent à leurs problèmes? Et puis après, c'est comme ça que j'ai réussi à faire la cartographie sociale des migrants. Ils mangent où? Ils se cachent où? Ils font quoi? Ils obéissent à qui? En cas de problème, comment ils résolvent leurs problèmes? Le problème entre deux communautés, comment ça se résout? Quand j'ai compris, c'était plus facile pour moi de proposer une solution. Alors, j'ai fait un plan d'action pour apporter une assistance médicale aux migrants. Et pour moi, ce plan d'action avait deux piliers forts. C'est de respecter leur clandestinité. Je ne devrais pas les trahir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je ne devrais pas les désorganiser. Je devrais respecter leur organisation locale. Donc, c'était deux principes forts. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont clandestins, je crois que la meilleure des choses de faire, c'est de prévenir la maladie. Comme ça, ça va les permettre de rester clandestins. S'il n'est pas malade, il ne sera pas obligé de sortir pour chercher l'aide. Donc, il fallait de mettre le paquet sur la prévention. Et comme je le disais, on nous a appris que le meilleur médecin, c'est celui qui soigne les bien portants. Le piètre médecin, c'est celui qui soigne les malades. Parce que quand quelqu'un est malade, ça coûte très cher pour l'organisation. Le malade, il peut rester avec des séquelles. Et il y a perte de temps, tout le temps d'alitement. Donc, il a perdu sur le plan économique. Il ne peut pas produire pendant qu'il est malade. Mais si on fait la prévention, il continue à produire. Ça coûte moins cher, il n'y a pas de séquelles et c'est très efficace. Et dans le cas d'espèce, il devrait rester clandestin. Et de l'autre côté, sur ce programme de... Et puis il y a un autre volet, c'est le volet curatif. Mais quelqu'un qui est déjà malade, il faut lui apporter le soin. Pour le volet préventif, là je me suis dit... La méthode la plus efficace, c'est la stratégie la plus efficace, c'est la stratégie de l'ISC. L'information, l'éducation pour le changement de comportement.
D'accord.
Bon. Et cette stratégie, je n'allais pas la mener seule, il fallait associer les pères éducateurs. Parce qu'il a déjà été démontré dans d'autres projets avec l'OMS et partout, que les pères éducateurs sont plus efficaces.
Alors, qu'est-ce que vous appelez les pères éducateurs? C'est les pères de l'Église?
Non, c'est un éducateur, donc le semblable. Non. L'éducation par ton semblable, quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que toi.
Père, P-A-I-R-E.
Oui, okay. C'est ça. C'est ça, ton semblable, père éducateur. Donc, c'est démontrer si le meilleur professeur de médecine, il te consulte, il te donne une ordonnance avec un traitement très efficace, il dit tu prendras ces comprimés matin, midi, soir, tu rentres à la maison, tu vois ta meilleure amie, et tu dis non, moi j'ai eu le même problème, j'avais eu le même médicament, je le prenais matin et soir, pas matin, midi, soir, matin et soir. Tu vas mettre le professeur en doute, parce que tu as confiance en ton ami. Ton ami ne peut pas vouloir du mal. Donc, tu vas contrebalancer. Donc, une information, une sensibilisation qui vient par le père, par son semblable, ça passe plus facilement que des discours très académiques. Et puis, l'ami peut trouver les mots pour te le dire, peut trouver le moment pour te le dire. Et le médecin, il ne peut pas. Peut-être tu peux te trouver pendant le moment de prière et tu ne vas pas l'écouter. Alors, j'ai formé, j'ai recruté les éducateurs pairs, je les ai formés en technique de communication, sur des thèmes précis, maladies sexuellement transmissibles, l'hygiène corporelle, des trucs comme ça. Et ils ont commencé à donner des sensibilisations de proche en proche, dans des petits groupes, entre amis, pendant des moments de cachette, de plaisance. En fait, ils choisissaient les bons moments pour faire passer le message. Et avec le temps, ces pères éducateurs étaient devenus les personnes relais à qui je confiais des tâches. Par exemple, de m'informer quand quelqu'un est malade. « Docteur, il y a quelqu'un ici. » Donc, ce n'était même plus de père éducateur. À un moment donné, c'est devenu de personne relais.
Donc, un véritable réseau santé, quoi.
Un réseau santé.
Que vous avez mis sur pied.
Il continue à fonctionner. Raoul fait partie de
ce réseau. C'est l'OPALS.
Non,
c'est pas ça.
OPALS, c'est après.
Ah, d'accord.
Oui, mais ça, c'est au niveau de Caritas.
D'accord.
J'ai commencé ce projet avec Caritas à former le père éducateur. Mais on ne peut pas faire la sensibilisation sur l'hygiène si personne n'a... Tu dis, il faut te laver les mains s'il n'a pas d'eau. Il va se laver les mains comment? Il faut se laver les mains avec le savon. S'il n'a pas de savon, il faut commencer par donner un minimum. Les toilettes étaient dans des conditions insalubres, terribles. Ces toilettes avec plusieurs personnes et tout, j'ai dit, il fallait avoir un minimum, un peu des litres de Javel, des pains de savon, des papiers hygiéniques, des garnitures hygiéniques pour les femmes, ainsi de suite, des brosses à dents, des dentifrices. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de brosser les dents trois fois par jour s'il n'a pas de brosse à dents. Ou s'il y a une brosse à dents déjà usée, qu'il a utilisée depuis 2 ans. Comment ça va être efficace? Donc, il fallait renouveler tout ça. Donc, mais où trouver l'argent? Moi, je n'avais que mes idées. Je suis allé chez Père Joe, qui était le directeur de Caritas. Je lui ai dit, bon, Père, voilà, peut-être tu ne me connais pas, je viens, je participe aux activités. Parce que quand on fait le bénévolat, on ne fait pas une demande d'emploi. Je suis venu, j'ai commencé à travailler avec l'équipe. Puis je suis allé voir le Père, je lui ai expliqué tout ce que j'ai vu, comment je comptais faire les choses, comment j'ai commencé à le faire. Je lui présentais les résultats, le programme. Il dit, ok, ça marche, j'adhère. Tu as besoin de quoi? Je lui donne l'état de besoin. Il a envoyé son équipe, ils ont acheté. Et j'ai appelé mes pères éducateurs, je les ai formés. Après la formation, ils sont descendus dans le quartier distribuer les kits d'hygiène. Et cela a facilité encore le contact parce que les migrants ont vu du concret. Je suis arrivé, j'ai causé avec eux. J'ai appris assez de choses sur eux. Et je suis parti et je reviens avec au moins une partie des solutions. Là, je félicite Père Dieu parce qu'il avait facilité le travail. Je n'étais plus un espion ou un curieux. qui venaient le regarder, mais j'étais quelqu'un qui voulait les accompagner. La confiance s'était établie. Malheureusement, Père Dieu devrait partir, il était âgé, et on devrait le remplacer par M. Vincent Sibou, un homme adorable. Il est venu, il a pris le programme à bras le corps, et nous avons cheminé avec Vincent Sibou jusqu'au moment où, bon, ça c'était pour le volet sensibilisation, prévention, le volet curatif. Là, je me suis dit, au lieu que le migrant se déplace vers la médina où se trouvait la permanence de Caritas, c'était trop risqué pour lui, parce qu'il risquait de se faire interpeller avant d'arriver à Caritas, c'est moi qui dois me déplacer vers eux. Et pour me déplacer, je dois être alerté pour savoir qu'il y a un problème. Et d'où le rôle de père éducateur qui devrait m'informer qu'il y a un malade ici, je devrais descendre.
Et là, donc, des pères éducateurs, vous en aviez dans toutes les communautés?
Toutes les communautés. Et chaque... Et c'était le responsable de chaque commune qui me désignait. Donc, j'ai respecté leur structure. J'ai dit, désignez-moi une personne qui peut être disponible pour faire le travail. Et j'ai eu dans toutes les communautés, et mon intervention était pour toutes les communautés. Les kits, c'est toutes les communautés qui ont eu, contrairement à ce qui s'est passé avant, il n'y avait que des Congolais qui recevaient l'assistance.
Là, on est dans les années 2005, 2006.
C'est 2004-2005. 2005, j'ai commencé ce projet 2004.
Voilà. Dans une période où ici, il faut quand même le rappeler, les migrants sont vraiment pourchassés quasiment. Quoi. On les rafle, on les ramène dans le désert, on les ramène à la frontière de Oujda, dans les forêts, on les rejette en Algérie. Ils sont dans des conditions qui sont terribles. Quoi.
Conditions terribles que eux-mêmes ils décrivaient. Il y a un jour, un migrant qui m'a dit « Docteur, ici nous menons la vie dans une bouteille. » Moi, je dis « C'est quoi la vie dans une bouteille ?» Il dit « On a fui la guerre. » Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de distinction migrant-réfugié. Tous étaient migrants. HCR, il n'y avait aucun papier. Il n'y avait même pas un demandeur d'asile. HCR n'existait presque pas. Alors il disait « On a fui la guerre. » Et sur la route, on a rencontré encore des difficultés, des casseurs de route. On nous a pillés, on nous a torturés, le désert à pied, c'était terrible. Donc, on a fui la mort, on rencontre une souffrance extrême sur la route. Et quand on se décide de rentrer, on ne peut pas rentrer parce qu'on sait ce qui nous attend, donc on doit continuer. Nous arrivons au Maroc. Effectivement, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de casseurs de route. Mais on ne peut pas sortir. En moindre rien, on vous prend, on vous jette dans le désert. On vous retourne là où vous avez... Et à ce moment-là, on est obligé de se cacher. Mais en nous cachant, nous voyons les gens vivre. Il y a les cafés, il y a tout ça. Les gens vivent et nous nous observons. Nous ne pouvons pas accéder à ce que nous voyons. Donc nous sommes vraiment dans une bouteille ici. Et nous ne pouvons pas continuer notre route parce que l'Europe a fermé les frontières. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dans les trucs de sensibilisation. J'avais imagé ça sur la route du migrant, la vie dans une bouteille. Et cette bouteille, je l'ai voulu en plastique. Parce que de moment, elle se déchire et ils traversent, ils vont en Europe. Donc la vie était très dure à ce moment-là. Et je commençais à faire ce travail, aller vers le migrant, apporter les soins. Je félicite aussi Caritas qui m'avait offert la première mallette, la trousse médicale, pour faire des consultations à domicile, ou faites dans des cachettes, dans des maisons fermées. Et c'est là... Et apporter des fumées, mais il y avait des cas que je ne pouvais pas soigner dans la maison. Il fallait amener à l'hôpital quelqu'un qui est fracturé, je n'aurais pas une radiographie dans la maison. Donc il fallait faciliter l'accès. Et je me suis souvenu de la première expérience avec Emmanuel, où le surveillant général avait assimilé le cas du migrant au X-Ben X marocain. Alors j'ai dit, il y a quand même des gens de bonne volonté ici, de bonne foi. Il faut les trouver, et la meilleure façon de les trouver, c'est d'aller vers eux. Et pour mieux les sélectionner, il faut entrer dans les associations marocaines à caractère humanitaire. Faire les caravanes avec eux, dans les montagnes pour les Marocains, dans des conditions défavorisées. Et à ce moment-là, je vais me faire des amis parmi les Marocains qui partagent les mêmes soucis que moi. Et quand j'amènerai le migrant, et ça va être facile.
Ça, c'est l'art de la stratégie.
Et c'est comme ça que, moi qui n'avais pas le temps, j'ai trouvé le temps pour faire les permanences. J'ai trouvé le temps pour faire le terrain, former les pères éducateurs, donner les soins à domicile et en plus le temps pour faire les caravanes. Ils faisaient les caravanes avec l'association marocaine pour la protection de la santé de l'orphelin. Et j'ai fait des caravanes avec l'Action Urgente. J'ai fait des caravanes avec Opals. J'ai fait des caravanes avec Maillon Humanitaire. Et c'était des Belges. Ils venaient aussi faire des caravanes ici. Avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'était très bien parce qu'à ce moment-là, ça m'avait donné une visibilité auprès du pouvoir public que je n'étais pas. Et en fait, les Wali partout, parce qu'avec la fondation, quand vous arrivez, c'est le gouverneur qui vous reçoit et tout. Et je faisais travailler pour le roi, donc je n'étais pas, c'est lui qui était contre eux. Donc ça avait quand même montré auprès des autorités que je n'étais pas aussi quelqu'un qui faisait pour montrer qu'eux, ils négligent, contre eux, j'étais avec eux aussi.
Oui, c'est très important. Mais en fait, là, du coup, ce que vous me décrivez comme situation, c'est une situation de pionnier. Vous avez vraiment ouvert des portes qui n'étaient pas ouvertes à l'époque.
Ce n'était pas ouverte. Les portes n'étaient pas ouvertes parce que, au fait, c'était ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui, je vois beaucoup de migrants, ils étaient cachés. On ne les voyait pas. Je me rappelle, il y avait un travail qui devait se faire à Tanger. Et on avait... une organisme, ça devait être l'Institut Pasteur à Tanger, qui avait eu un projet pour sensibiliser les migrants et tout, mais il n'y avait pas de migrants. Mais comme à l'époque, ils avaient appris qu'il y avait une activité qui s'est passée avec un médecin subsaharien à Rabat, il m'a contacté. Est-ce qu'on peut avoir des migrants à Tanger? On m'a dit oui, il y en a. Vraiment à Tanger, il y en a. On m'a dit oui, il y en a. Comme j'avais de pères éducateurs de relais dans toutes les communautés et sur tout le royaume, parce que c'est chaque communauté qui m'est désignée. À Tanger, nous avons telle personne qui peut faire partie. À Oujda, nous avons telle personne qui doit faire partie. Donc j'avais les personnes relais sur tout le royaume du Maroc. J'ai appelé, j'ai contacté les chefs de communauté ici, ici à Rabat. Ils disent, j'ai besoin d'autant de personnes par communauté à Tanger. Vos gens qui sont à Tanger cachés dans la forêt. Ils ont dit, ok docteur, on vous fait confiance, vous n'allez pas nous trahir. Et ils m'ont donné la liste. J'ai dit aux organisateurs que j'ai autant de migrants. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Je suis allé à Tanger. Le jour de la conférence, les migrants sont venus. Dès qu'ils sont sortis, même les habitants de Tanger étaient surpris de voir les migrants dans la rue. Parce que je les ai fait sortir, ils sont venus. Avec tactique, ils viennent en groupe, ils se mettent, ils envoient quelqu'un à l'endroit, et ils vérifient, celui-là dit on ne m'a pas arrêté, et puis il revient, trois reviennent, et puis après la salle était remplie, nous avons fait la manifestation. Donc ça n'était pas facile, on a réussi à le faire sortir et à établir un contact avec les institutions de la place. C'est vrai, ça marchait. Parce qu'on arrivait à annuler les factures d'hospitalisation, de chirurgie, parce que j'amène le migrant, Oui, tous étaient mes compatriotes. Donc, quand j'amenais à l'administration, ah, les compatriotes de Dr Kalonji, ah, on a vu votre compatriote là-bas. Et on arrivait, on le soignait. Et après, je présentais le dossier chez l'assistante sociale, qui était avec moi dans une caravane avant-hier, le mois passé. Il me comprenait, il prend le dossier. Il prouve que la personne est vraiment vulnérable, n'a pas de moyens. Avec ce dossier, on amène chez le directeur de l'hôpital. Il annule la facture. C'est comme ça qu'on faisait. Voilà, ce travail a évolué. À un moment donné, il y a eu des événements de Ceuta et Melilla. Parce que la question de la permanence de Caritas qui était à la Médina, c'était un problème pivot. On ne va pas continuer à aller distribuer les choses. Il y a une permanence. Il faut que les migrants arrivent à aller au centre. Il n'y avait pas que le médical. Moi, j'avais réussi peut-être à résoudre le problème avec le médical en descendant sur place. Mais il y avait d'autres activités comme l'écoute. Les migrants en avaient besoin, mais on ne peut pas faire l'écoute dans les maisons des migrants.
Et donc, toute la question sociale, de toute façon, qui accompagne chacun d'entre nous.
C'est ça. Alors, mais comment faire pour trouver une autre permanence pour Caritas? Médecins du Monde, l'équipe de Médecins du Monde descend à Ceuta, Melilla, après les événements. Ils arrivent, ils ne trouvent plus de migrants, ils ne pouvaient pas les voir.
Les événements, c'était ce quand l'armée a tiré sur les migrants et il y a eu 14 morts.
Tout à fait, cet événement-là. Alors, ils descendent sur Rabat, on leur dit, il y a un médecin africain qui est là, qui s'occupe des migrants. Et docteur Jawad, je me rappelle, de Médecins du Monde, il est venu, on a eu l'entretien, je lui ai expliqué ce que je faisais et tout ça. Il me dit, mais ça me paraît intéressant, j'étais pas venu pour ça, mais on peut tenter. Quels sont tes besoins? Moi, j'ai le besoin, c'est d'avoir un, je préfère être connecté à une structure médicale. Parfois, ce n'était pas facile de faire passer certains besoins et puis de déplacer, créer un centre d'accueil migrant dans le quartier populaire, pas en ville. Le migrant n'est pas en ville à la Médina. Mais il dit, bon, on va commencer tout d'abord par un pré-projet. On va voir. Bon, on a fait le pré-projet avec Médecins du Monde, ça a marché. Mais pour le pré-projet, il me dit, docteur, Médecins du Monde n'est pas encore installé ici, mais l'argent qu'on va envoyer serait logé dans quel compte? C'est un problème. On ne peut pas faire loger l'argent de Médecins du Monde dans un compte privé. Moi, je dis non, n'ayez pas de soucis. Moi, je collabore avec Caritas. Caritas a un compte. Donc, vous prenez l'argent, vous mettez dans le compte de Caritas. Votre argent serait géré par Mademoiselle Gwenaël, qui gère l'argent de Caritas. Et il y aura une transparence. Et ça, ça l'a rassuré. L'argent est venu. On a fait jusqu'à ce qu'on a créé, avec l'argent de Médecins du Monde, le centre d'accueil migrant dans le quartier populaire de Caritas. Ça a été créé avec l'argent de Médecins du Monde, cette association Caritas Médecins du Monde.
On va parler un peu de vous aussi. Votre trajet, vous êtes resté jusqu'à quand du coup au Maroc, ici à Rabat?
Je suis resté jusqu'à 2010. Donc, j'ai fait ce travail de 2004 à 2010. D'accord. Mais c'était dur parce que j'avais un challenge. Je ne pouvais pas abandonner mes études. J'étais venu pour ça. Je ne pouvais pas abandonner mes recherches parce que j'étais issu de l'enseignement supérieur. Il fallait que j'aie mon PhD, que je sois professeur. Donc, il fallait le faire. Mais à côté de moi, il y avait un besoin. Et comme j'avais ouvert cette boîte de Pandore, les demandes venaient, des appels, j'avais les appels tout le temps. Et je n'avais plus le temps de rentrer au pays pour voir les miens.
Voilà, Anaclé, part après dans notre entretien sur sa situation personnelle, ce qui a été assez compliqué. Donc, je remettrai une autre fois l'histoire de le monter de manière, correcte. Et donc, on va continuer juste la fin de ce petit entretien. Je lui ai demandé donc comment il a perçu, comment il a reçu cette conférence, la parole aux migrants, donc la raison pour laquelle il était venu à Rabat pour intervenir lors de cette conférence qui avait été organisée par l'Association des réfugiés et communautés migrantes au Maroc, et l'association qu'Emmanuel Mbolela et ses amis ont monté à Rabat et qui s'occupe de l'accueil, qui a ouvert des foyers d'accueil pour les femmes migrantes subsahariennes qui arrivent à Rabat et qui sont souvent dans des situations extrêmement compliquées. Je lui demande donc ce qu'il a ressenti lors de cette conférence.
Il y a plusieurs plans. Sur le plan personnel, ça réveille beaucoup d'émotions. Je vous avoue que je n'étais pas très présent, j'ai fouillé par moments parce que je ne pouvais pas tout supporter. Bon, ça c'est... Mais de l'autre côté, ça a été une réussite parce que pour fuir, ça veut dire qu'il y avait la parole était donnée aux migrants. Ils ont parlé et ça m'a touché. J'étais obligé de ne pas... de me protéger parce que ça fait le retour être parfois difficile à gérer. Bon...
Non, c'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est...
Bon, de l'autre côté, sur le plan de l'organisation aussi, l'organisation a été très bien pensée. Ce n'était pas le monologue. Parole aux migrants, le migrant avait eu l'interlocuteur. Il y a eu des hommes et des femmes qui se sont déplacés de l'Europe pour venir écouter. Ça, c'est important. Cette parole n'est pas partie dans l'air. Quelqu'un qui a pris son avion, qui a laissé ses occupations pour venir écouter le migrant, il est déjà prédisposé à les aider. Et les migrants ont parlé. Ils ont parlé avec leurs mots. Ils ont parlé avec les gestes. Ils ont amené les enfants. Ces enfants ne sont pas des migrants.
Oui. Mais ces enfants sont nés ici.
Mais il ne faut pas qu'ils soient victimes de la migration. Ils n'ont rien fait pour que la migration ait lieu. Donc, la société doit faire en sorte que ces enfants soient protégés. Autant que nous nous sommes battus pour que leurs parents migrants soient protégés, autant on doit se battre pour que ces enfants qui sont des victimes, au fait, qui sont... comme une conséquence, je ne dis pas victime, conséquence de la migration, qu'ils ne puissent pas devenir des migrants demain, qu'ils ne puissent pas avoir un avenir compromis. Ça, c'est le devoir de tout le monde, de tout humain. On doit faire, parce que si on ne fait pas ça, personne ne sera en sécurité.
Bien sûr.
Je pense...
C'est un message très important, ce que vous venez de dire. Si on ne fait pas ça, personne ne sera en sécurité. Je crois que je vais arrêter de vous torturer. Je vous remercie beaucoup, 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 Anna Klekalundji. Je vous remercie beaucoup, c'était un témoignage incroyable. Et j'espère qu'on va se retrouver à l'occasion.
Merci.
Vraiment.
Beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, maman. Merci.
Voilà, je suis très heureuse de vous avoir présenté Anna Klekalundji, donc médecin congolais, officiant aujourd'hui au Gabon. Et j'espère que vous avez appris autant de choses que moi en l'écoutant, et surtout que vous avez apprécié la sensibilité de ce monsieur qui ne s'est jamais, jamais habitué aux souffrances qu'il a rencontrées tout au long de cette route de militant, de solidaire qu'il a pratiquée depuis déjà de nombreuses années. Il n'était pas prédestiné, hein, comme il le dit au début, à se solidariser avec les personnes en situation de migration. Et ben voilà, il est tombé dans la marmite, et finalement c'est très touchant comme il a reçu toutes ces personnes. On va finir cette émission de Passeurs d'Infos. On va se retrouver la semaine prochaine. Elle est rediffusée, je vous le rappelle, samedi à partir de 18h. Vous pouvez la retrouver aussi sur le site de Radio Zinzine, ainsi que toutes les informations que vous avez pu entendre lors de cette émission. Je vous rappelle quand même de vive voix tout de suite, parce que ça sera valable aussi samedi soir, puisque c'est un événement qui aura lieu le 15 janvier. Qui vient, c'est-à-dire mardi, c'est un concert du rappeur activiste Martial Panucci qui vient de Congo-Brazzaville, et ça va se passer à Fort Calquier dans les caves à Lulu, c'est rue d'Orléans. Le concert sera précédé à partir de 18h d'une projection et d'une discussion sur la situation de ce pays qui est extrêmement compliqué et grave. Il y aura un bar et une restauration sur place, et le tout sera à prix libre. On y sera, rendez-vous mardi soir donc aux caves à Lulu de Fort Calquier pour ce concert de Martial Panucci. Je vous invite à passer une bonne soirée et à ouvrir vos portes, sortir de vos maisons et vous solidariser vous aussi. À bientôt. Et bah, la semaine prochaine, au revoir Johannes, et merci pour la technique. Passeur d'info, une émission proposée par Radio Zinzine.
Tu vas attendre 2 ans
sans papier.
Et tu reçois refusé
sans papier.